Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la sainte sourate Qari'a. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaitanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 27 Bahman, 1400 du calendrier iranien, 17 février 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite un commentaire politique. Le Hezbollah a franchi le seuil de 1000 missiles de précision, a déclaré Seyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah libanais. S'entendre avec les États-Unis, c'est trahir l'essence de la révolution, a déclaré le leader de la révolution islamique. Nous sommes plus proches que jamais d'un accord à Vienne, c'est ce qu'a déclaré le négociateur en chef iranien. Et Israël démolit une autre maison palestinienne au Negev. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, s'est adressé ce jeudi par vidéoconférence aux habitants de Tabriz pour rendre hommage aux événements du 18 février 1978 à Tabriz pendant la révolution islamique. Le leader de la révolution islamique a déclaré « La pérennité de la révolution demande à ce que sa perspective en soit totalement clarifiée, son présent et son avenir entièrement décanté. Pour que sa dynamique ne s'arrête jamais, il lui faut des objectifs de façon à ce que ses exigences présentes et futures soient satisfaites. » Plus loin dans ses propos, le leader de la révolution islamique a davantage précisé l'enjeu de l'avenir. Beaucoup de questions demandent à être traitées intelligemment, dont surtout la question de l'énergie nucléaire. Une question à caractère parfaitement civil, sur quoi l'ennemi s'est focalisé et fait tout pour nous en bloquer l'usage, un point qui mérite la réflexion à l'heure de la grande crise de l'énergie en Occident. Les pourparlers nucléaires de 2014 et de 2015 manquaient de cette perspective dont j'ai parlé, et je ne cessais d'en avertir les responsables. Certaines de ces remarques n'ont pas été tenues en compte, ce qui a créé des problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. Notre ennemi est totalement désarmé sur le champ de bataille et n'a d'autre moyen que de recourir aux pressions économiques et aux médias mensongers. Et dans ce contexte, il est infiniment erroné que de vouloir céder à ses exigences. D'ailleurs, ceux qui parlent de l'entente avec les États-Unis oublient de loin l'essence même de notre révolution. À mon sens, ce que l'ennemi a visé, c'est nos esprits, nos capacités de réflexion, ou dit brièvement, les dispositifs intellectuels de notre jeunesse. Des milliards de dollars sont dépensés en ce sens et l'effort ennemi consiste à dévier le peuple de son chemin, soit par la pression économique, soit par la campagne d'intoxication. Le négociateur en chef de l'Iran au pourparlers de Vienne appelle les autres parties à faire preuve du réalisme et à éviter les demandes excessives. Dans un tweet, Ali Boredikani affirme qu'il est temps pour eux de prendre des décisions sérieuses afin de relancer l'accord de 2015. Le diplomate iranien affirme que les négociations, qui durent depuis des mois, sont aujourd'hui plus proches que jamais d'un accord. Cependant, il souligne que rien ne sera convenu tant que tout n'est pas accepté. Le représentant de la Russie au pourparlers, Mikhail Ulyanov, a fait écho aux remarques de Boredikani, appelant à ce que les décisions finales soient prises. Les pourparlers à Vienne sur le dossier nucléaire iranien sont dans une phase compliquée, mais pas dans l'impasse, a annoncé Téhéran. Les négociations sont compliquées et difficiles, car elles touchent des questions clés qui nécessitent des décisions politiques sérieuses, en particulier de la part de Washington, insiste Téhéran. Les forces israéliennes démolissent une autre maison palestinienne dans les territoires occupés. Les médias locaux ont diffusé des images d'un bulldozer israélien rasant une propriété dans la région du Negev, où des familles palestiniennes vivent depuis des générations. Les forces israéliennes accusent les habitants de manque de permis de construction, alors que l'obtention de ces permis est presque impossible pour les Palestiniens. Les Palestiniens et les groupes de défense des droits pensent qu'il s'agit d'une politique destinée à saisir de plus de terres en faveur des colonies israéliennes et à nettoyer ethniquement la région du Negev. Plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ont condamné les activités de colonisation du régime israélien qui sont injustes et illégales. L'agence de presse russe Sputnik rapporte que l'armée ukrainienne a tiré des obus de mortier et des grenades sur 4 localités de la République populaire autoproclamée de Lugansk. Ces dernières années, des tirs sporadiques ont été signalés dans ces régions. Mais une escalade pourrait alimenter les tensions entre la Russie et l'Occident. La République populaire autoproclamée de Lugansk affirme que les forces ukrainiennes ont utilisé des mortiers et des armes lourdes pour attaquer leur territoire, violant ainsi le régime de cesser le feu. Mais l'Ukraine nie avoir ouvert le feu et affirme à la place que ce sont les forces pro-russes qui ont ciblé les forces gouvernementales avec des armes prohibées. Pendant ce temps, la Maison-Blanche affirme que la Russie a déplacé 7000 soldats à la frontière ces derniers jours. Les évolutions interviennent alors que la Russie dit qu'elle a retiré certaines troupes des zones proches de l'Ukraine cette semaine et les a envoyées dans leur base après avoir terminé leurs exercices militaires. Une société américaine d'imagerie par satellite confirme que la Russie a retiré du matériel de la frontière. L'opposition du Kremlin à l'élargissement de l'OTAN vers l'Est et les allégations de l'Occident selon lesquelles la Russie se prépare à envahir l'Ukraine ont récemment exacerbé les tensions. Le secrétaire général du mouvement de résistance libanais, le Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, a pris la parole lors d'une cérémonie annuelle commémorant les martyrs de la résistance. Dans son discours télévisé, Seyed Hassan Nasrallah a souligné que dans quelques mois, le Hezbollah aura 40 ans, affirmant que le sang des martyrs a renforcé la résistance au Liban. Il a fait ses remarques mercredi lors d'une cérémonie à l'occasion de l'anniversaire du martyr des commandants de la résistance, le cheikh Raghib Harb, Seyed Abbas al-Moussaoui et Imad Mornier. Il a déclaré que le Liban faisait face à une menace d'occupation par Israël en 1982, notant que la résistance est la force qui a protégé l'identité du Liban face aux menaces du régime sioniste. Selon le secrétaire général du Hezbollah, le mouvement de la résistance dans la région a commencé bien avant la fondation du Hezbollah. Les commandants de la résistance ont refusé de se rendre au régime israélien ou d'accepter l'occupation, a déclaré Seyed Hassan Nasrallah. Il a ensuite dénoncé les pays de la région qui ont normalisé leurs relations avec le régime israélien, décrivant le régime de Tel Aviv comme un régime temporaire qui se dirige vers son effondrement. Seyed Hassan Nasrallah a également déclaré que le Hezbollah a remporté des victoires contre le régime israélien depuis 1985. Nous sommes confrontés à Israël qui est une entité affaiblie et en train de s'effondrer, a-t-il affirmé, avant d'ajouter que la résistance affronte les ambitions de l'ennemi, protégeant le Liban et soutenant la Palestine. Le secrétaire général du Hezbollah libanais a déclaré que la résistance resterait loyale à ses idéaux malgré toutes les conspirations et les lobbyings de ses ennemis. Il a souligné qu'Israël est le seul régime au monde décrit comme un régime d'apartheid, affirmant que les responsables du régime de Tel Aviv ont avoué qu'ils sont confrontés à une course contre la montre pour allonger la durée de vie d'Israël. Les factions de la résistance dans la région, y compris le Hezbollah, pensent que l'entité sioniste est un régime en déclin, a-t-il déclaré. Seyed Hassan Nasrallah a affirmé qu'il y avait un manque de confiance au sein de l'armée israélienne et parmi ses généraux. Il a cependant précisé que la résistance ne sous-estimait pas la force d'Israël et que le régime de Tel Aviv possédait encore beaucoup de pouvoir, bien qu'il soit en déclin. Nous encourageons les Israéliens à quitter la Palestine et nous sommes prêts à payer leur billet de retour, a-t-il affirmé. Le secrétaire général du Hezbollah a ajouté : les sionistes n'ont pas pu rester au Liban et cela signifie qu'ils ne pourront jamais réaliser leur rêve du grand Israël du Nil à l'Euphrate. En réaction aux récentes menaces proférées par le régime israélien, le secrétaire général du Hezbollah a déclaré que les ennemis continuent à nous menacer, mais ils savent que ce serait très difficile et très coûteux pour eux s'ils osaient un jour de les réaliser. Il a souligné que le Hezbollah était capable d'améliorer la qualité de ses missiles et roquettes pour repousser les menaces israéliennes. Nous avons la capacité de convertir nos missiles actuels en missiles de précision et nous avons commencé ce projet il y a des années, a-t-il déclaré. Il a également déclaré que le Hezbollah possède des milliers de missiles et de roquettes que les ennemis sont incapables de localiser. Le secrétaire général du Hezbollah du Liban, Seyed Hassan Nasrallah, a déclaré que la résistance fabrique elle-même des roquettes et des drones. « Nous avons commencé à fabriquer des drones », a-t-il dit, s'adressant aux dirigeants du régime israélien. « Nous produisons des drones au Liban depuis longtemps et quiconque veut les acheter passe une commande », a-t-il ajouté. Je dis aux Israéliens que leur guerre entre les guerres a transformé la menace en une opportunité pour la résistance, a-t-il ajouté.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de cette émission, nous allons aborder cette visite à Bahreïn du Premier ministre israélien Naftali Bennett. Mardi, le Premier ministre israélien a eu des entretiens avec les autorités bahreïnises, le prince héritier de ce pays, le roi de Bahreïn, autre des responsables de ce pays. Et cette visite effectuée à un moment où, vous le savez très bien, que Bahreïn fait partie en fait des pays que, sous des pressions américaines et israéliennes, sont allés vers la normalisation avec le régime israélien dans le cadre de ces accords dits d'Abraham. Et il y a eu des manifestations à Bahreïn contre cette visite du Premier ministre israélien dans ce pays. Il y a eu surtout de la réaction de cette haute autorité religieuse bahreïnite, l'ayatollah Sheikh Issa Rassem. L'ayatollah Sheikh Issa Rassem, qui, réagissant à cette visite à Bahreïn du Premier ministre israélien, a dit que voilà, le peuple Bahreïni ne tolère même pas un instant la présence des sionistes sur son sol et poursuivra sa résistance. Il y a eu également la réaction du responsable du parti islamique Wefaq, qui, réagissant, si vous voulez, à cette visite à Bahreïn du Premier ministre israélien, a dit que nous, le peuple bahreïni, nous défendons la cause palestinienne et nous sommes contre toutes sortes de normalisation avec le régime occupant sioniste. C'était en fait la réaction du cheikh Hossein Adihi, si vous voulez, directeur adjoint, le secrétaire général adjoint du parti islamique Wefaq. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Alsace un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître André Chamy. Maître Chamy, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, merci pour votre invitation et surtout pour votre gentillesse.
Et j'ai le plaisir également d'avoir avec moi pour cette émission depuis, je ne sais pas, Paris ou Damas, une analyste franco-syrienne, Madame Aïssa Midani. Madame Midani, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à Damas ou vous êtes à Paris, Madame Midani ?
Je suis à Paris.
Merci beaucoup, Madame Midani, qui est avec nous pour cette
émission.
Je vous en prie, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, Madame Midani. Madame Midani, on va commencer avec vous notre émission d'aujourd'hui. Madame Midani, quelle analyse portez-vous sur cette visite à Bahreïn du Premier ministre israélien qui a suscité, je viens de le dire tout à l'heure, la réaction négative du côté du peuple bahreïni et également d'une autorité, d'une haute autorité religieuse de ce pays et également de la réaction négative de ce parti d'opposition Al-Wefaq, Madame Midani.
Alors, en fait, ces visites successives qui se font, d'abord, c'est la deuxième visite là, à Bahreïn, qui suit la visite d'un haut responsable aussi, je pense que c'était le président, et puis maintenant, c'est le responsable des services. à Bahreïn. Ils viennent, ils se dépêchent en fait de sceller des relations de collaboration sur le plan technique et sur le plan sécuritaire, je dirais, avec Bahreïn. Et ceci représente vraiment à quel point les Israéliens sont inquiets. Ça d'une part. D'autre part, il est certain que le peuple bahreïni, il est complètement opposé à ce type de, pas seulement de normalisation et encore moins de collaboration avec l'ennemi, car le peuple bahreïni considère effectivement que l'ennemi dans la région est le seul ennemi, je dirais, des peuples arabes. C'est Israël et ceux qui soutiennent Israël, donc ceux qui soutiennent le projet israélien, c'est les Américains et puis l'OTAN. Cette visite s'inscrit dans ce cadre. Je pense qu'il est important de voir quand même les manifestations et toutes les oppositions du peuple bahreïni depuis les accords ou les normalisations ont été scellés sous l'égide de Trump avec Israël devant les caméras. Et puis aussi, il est important de parler aussi de cette grande réunion de toute l'opposition bahreïni qui s'est tenue au Liban pour dénoncer cette collaboration, dénoncer cette normalisation, mais moi je dirais c'est beaucoup plus qu'une normalisation, c'est vraiment une collaboration à tous les niveaux, malheureusement, aussi bien au niveau culturel, au niveau politique, au niveau sécuritaire, au niveau des services de renseignement, etc. Donc, il est important aussi de voir que dans le peuple bahreïni, à chaque occasion, affirme et réaffirme sa solidarité avec la lutte du peuple palestinien, avec le peuple palestinien, jusqu'à la libération totale de la Palestine, qui est une terre usurpée, et un peuple à qui on veut voler tout, et la présence israélienne dans la région. Donc, en fait, il y a un très grand gap, un très grand fossé entre le peuple bahreïni et cette direction qui n'est rien d'autre qu'un émir qui a été posé en place et qui représente la principauté et qui a été posé en place par les forces britanniques juste avant la déclaration de l'indépendance du Bahreïn. Donc c'est un émir qui est à la solde des Britanniques depuis longtemps, sauf que le peuple bahreïni est complètement différent et il est sur d'autres positions et dans une autre logique.
Merci beaucoup, Maître Chami. Vous avez entendu de l'analyse de Madame Midani. Votre lecture des faits, s'il vous plaît.
Vous savez, ce sont les multitudes de rencontres entre les gens qui ont peur et qui considèrent qu'ils ont le même ennemi. L'antisioniste a peur parce que aujourd'hui, elle sait qu'elle a un problème existentiel, c'est-à-dire son avenir n'est plus assuré pour différentes raisons qui sont internes ou externes. Internes parce que la société est en train de se disloquer et l'absence de perspective, l'absence de concept d'État-nation au sein de sa population depuis la disparition des créateurs de cette entité. Et vous avez également les problèmes sociaux, les problèmes démographiques, vous avez les problèmes de racisme, une multitude de problèmes, mais surtout le problème par rapport à ce qu'on appelle son environnement extérieur, c'est-à-dire cette entité est entourée directement par ce qu'on appelle des pays ennemis. Vous avez bien entendu les Palestiniens, vous avez les Syriens, vous avez les Libanais et vous avez plus loin en appui les Irakiens, les Yéménites, évidemment les Iraniens qui sont considérés comme les chefs de l'axe de la résistance, c'est-à-dire c'est la pointe de ce que peut représenter le premier ennemi, si j'ose dire, pour l'entité sioniste depuis la naissance même de la révolution islamique. Et en même temps, vous avez des pays qui sont des pays parce que la péninsule d'Arabie n'était pas composée de ces États-là. Il a fallu créer ces États-là qui sont des États artificiels avec des princes locaux à qui on a confié le pouvoir contre l'avis de la population. Et malgré cela, évidemment, la population ne cherche pas à renverser particulièrement ces princes, mais cherche à avoir des libertés, cherche à avoir une véritable démocratie, cherche à avoir un avenir pour sa population et pour sa jeunesse. Et le Bahreïn est l'exemple le plus parfait, si j'ose dire, de l'absence de toute perspective pour cette population. C'est la raison pour laquelle les résistants de l'intérieur de ces pays, ce qu'on appelle les opposants au régime, qui n'ont pas cherché particulièrement le régime, qui ont cherché toute modification dans le fonctionnement, à vous émanciper et à voir venir pour la jeunesse. Et puis, bien entendu, la réponse qui a été donnée par le prince, c'est de l'emprisonnement, c'est les exécutions et c'est bien entendu l'élimination et la multiplication de naturalisation au profit des personnes qui appartiennent ou à la confession chiite pour dire on est en train de rééquilibrer le rapport de force entre chiites et non-chiites. Ce n'est pas parce qu'on rétablirait une démocratie et ce n'est pas par ces moyens-là qu'on essaierait de répondre aux aspirations de la population. Et c'est la raison pour laquelle je dis entre deux gens ou deux entités qui ont peur, eh ben on essaie de coopérer. Et les Israéliens essaient de compter sur l'appui des pays du Golfe, notamment le Bahreïn, mais il n'y a pas que le Bahreïn, et les Émirats Arabes Unis avec lesquels ils entretiennent des rapports privilégiés. Vous avez les rapports avec l'Arabie Saoudite qui sont en train de monter en puissance pour apparaître comme le porte-étendard des pays coopérant avec l'entité sioniste. Et vous avez d'autres pays comme le Qatar en filigrane, vous avez Oman, vous avez d'autres pays qui sont là, mais qui sont en gestation, si je veux dire, dans le cadre de ces rapports-là. C'est-à-dire le Bahreïn est un exemple parmi d'autres, mais encore une fois, c'est un cache-misère parce que ce ne sont pas des pays qui sont susceptibles d'apporter. Ce sont des pays qui auraient besoin, de par l'origine, de par l'absence de perspective d'émancipation, d'indépendance réelle, de protection. Que les Américains surplus cette protection-là en raison de leur opinion publique et d'autre part du refus des Américains de s'engager interminable contre le peuple yéménite. Entendu, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On cherche auprès de l'ennemi de mon ennemi, l'ennemi des gouvernants du Bahreïn, il est vite désigné, c'est l'Iran. Et l'ennemi de l'Iran est considéré comme l'entité sioniste, c'est la raison pour laquelle il y a ce rapprochement avec l'entité sioniste. Mais cela n'apportera pas une véritable protection parce que la parole du peuple a commencé à parler. Les grandes manifestations sur la place de Lolo, c'est-à-dire la perle à Manama, je dirais, a sonné le glas, si j'ose dire, de la fin de ce régime. Et tôt ou tard, ce régime finira par s'effondrer parce qu'il ne veut pas comprendre les véritables aspirations de sa population. Et à partir de là, ben, évidemment, la peur génère quoi ? Génère l'oppression, génère la lutte contre sa propre opposition au lieu d'essayer de la faire coopérer pour faire ressortir un nouveau système qui répond aux désirs de la population culturelle, au niveau religieux, au niveau de l'éducation, mais au niveau scientifique, aux organisations de l'État. Il y a cette volonté-là. Les gouvernements du Bahreïn ne veulent pas ce sens-là. Eh bien, évidemment, ils essaient de tirer leur coopération avec l'entité. Et cette réunion fait partie du système de coopération. Mais à mon sens, l'avenir n'est pas bon pour cette relation-là, n'est pas bon pour cette coopération-là, parce que les grands enjeux ne jouent pas à cet endroit-là. Mmh. Les enjeux se jouent sur le terrain de contre l'entité sioniste, toutes les coopérations avec cette entité sioniste, dans les prochains mois, commencent. Toutes ces alliances vont s'effondrer.
Merci. Madame Midani, si j'ai bien suivi Maître Chami, il s'agit en fait d'une collaboration entre deux entités qui ont peur. L'entité israélienne qui a en fait un problème existentiel, qui s'explique par des problèmes internes et en fait externe, extérieur. Alors cette entité est confrontée à cette multitude de problèmes, tant au niveau intérieur qu'à l'extérieur. Et l'entité Bahreïni, selon Maître Chami, est confrontée à ce mouvement de contestation, de protestation du peuple Bahreïni. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Midani?
Ah ben, je pense que c'est tout à fait, c'est effectivement le cas sur le plan intérieur. Je voudrais rappeler quand même que le peuple Bahreïni est en lutte depuis 2011 et qui a été juste pour des droits de représentation démocratique et pour avoir les mêmes droits que tous les citoyens. Les autorités, ce qu'ils font, ils sont le comble de la violation des droits humains. Ils sont en train d'enlever la nationalité à tous ceux qui luttent, effectivement, et en train de donner rapidement une nationalité bahreïnie à des Israéliens qui viennent, etc. Donc il y a aussi une volonté de modification démographique du Bahreïn par ces autorités. Ça, c'est donc des points qui confirment effectivement ce roi se bat pour la réappropriation de ses pouvoirs par rapport à un pouvoir qui collabore avec l'ennemi et qui aux autorités américaines, etc. Ça, c'est côté. De l'autre côté, la société, je voudrais aussi le soutien que mène le peuple bahreïni à la lutte du peuple au Yémen, à la lutte du peuple palestinien, c'est réaffirmé à toute occasion, et ça ne fait que effrayer les Israéliens, mais aussi les autorités qui collaborent avec elles. Ça, c'est aussi un point. Si on va un petit peu du côté de la Palestine occupée, la lutte du peuple palestinien monte crescendo. Et l'ensemble des factions, je dirais, et l'ensemble des groupes du peuple unissent dans la lutte contre l'occupant israélien. La grande de la Quds a été semé une peur chez les Israéliens aussi qui a quitté le pays. La majorité des colons quittent le pays pour les rassurer. L'État n'arrête pas de construire des colonies, mais aux dépens des habitations palestiniennes et en voulant les détruire, les expulser, etc. Mais en même temps, ils n'arrivent pas à arrêter le flux vers l'extérieur de tous ces colons, de toutes ces populations qui sont venues de partout en Europe, etc. Pour devenir israélien, habiter en Israël. Et puis, toutes ces habitations sont vides aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, l'État de l'entité israélienne, il s'active beaucoup par le biais, d'ailleurs, ça a été par le biais de l'aide de Trump et Jared Kushner, pour briser son isolement. Parce qu'ils savent que de toute façon, ils n'en est rien, ils ne seront jamais admis dans la région, malgré les coopérations de certains États qui sont complètement coupés de leur peuple, comme les Émirats, l'ensemble des Émirats, et même comme l'Arabie saoudite. Mmh. Donc, aujourd'hui, on voit l'avenir est au peuple dans la région, l'avenir est à la résistance, qui s'est renforcée énormément ces 10 dernières années, ces 11 dernières années, à travers à la fois cette guerre contre la Syrie, qui a effectivement provoqué, je dirais, un renforcement du front de la résistance, un renforcement des rapports stratégiques entre les différents pays du front de la résistance, mais aussi un élargissement du front de la résistance. Donc ça, c'est un facteur très, très important qui ajoute à la peur panique d'Israël, entité occupante.
Maître Chami, dernière question. En fait, l'élargissement et le renforcement du front de la résistance, c'est un élément essentiel qui fait peur tant à l'entité bahreïnie qu'à l'entité israélienne. Est-ce que votre avis également, Maître Chami?
De toute façon, c'est le même danger pour tout le monde. Hein. À partir du moment où le porte-étendard de l'ensemble de l'axe de la résistance, c'est la République islamique d'Iran. Évidemment, l'ennemi ou les ennemis de la République islamique d'Iran mutualisent leurs forces et mettent en place des espèces de... Mais en réalité, si aujourd'hui nous avons, entre autres, les négociations sur le nucléaire iranien, quelle est la finalité? La finalité, c'est de mettre des pressions sur la République islamique d'Iran, non pas parce qu'on a peur du nucléaire militaire, c'est faux. Quand vous regardez ce qui est en train d'être discuté, ce qu'on essaie d'obtenir de la République islamique d'Iran, ce sont la cessation de tout appui pour l'axe de la résistance, notamment le Hezbollah, ce que les États-Unis appellent comme les organisations terroristes, c'est-à-dire le Hezbollah, le djihad islamique et le Hamas, mais en même temps, cette espèce de rupture dans les alliances avec l'ensemble de l'axe de la résistance, c'est-à-dire avec le Hezbollah, avec la Syrie, l'intervention au Yémen, en tout cas ce qui est considéré comme une intervention iranienne au Yémen et dans les pays du Golfe. Quand t'en parles de la puissance balistique de l'Iran, ça menace qui? Ça menace pas les États-Unis, ça menace pas la France, ça menace pas l'Allemagne, ça menacerait, selon les Américains, la sécurité d'Israël. Ils essayent à ce moment-là, à travers la limitation du programme balistique iranien, on essaie de protéger l'entité sioniste, parce qu'aujourd'hui, l'entité sioniste n'est plus à l'abri de toute attaque de toutes sortes, ce qu'on appelle les attaques massives sur une multitude de fronts. C'est ça qui menacerait de l'extérieur, c'est la menace dont j'ai parlé en introduction, c'est ce qui menacerait de l'extérieur, l'existence de l'entité sioniste. Mais il y a également la menace intérieure. La menace intérieure, c'est aussi la présence de ce qu'on appelle des Palestiniens de 48, en plus des problèmes internes, c'est-à-dire structurels à l'entité sioniste. Vous avez également les Palestiniens de 48 qui représentent également une menace intérieure. Et ces Palestiniens de 48, merci, on commence à craindre une coopération entre eux et la République islamique d'Iran. Est-ce que je me rappellerai d'une déclaration d'un responsable iranien, je me rappelle même pas si c'était pas Monsieur Wilayati, il a dit un jour la menace viendrait de l'intérieur, et cette menace est arrivée, s'est concrétisée à travers les attaques de l'intérieur, c'est-à-dire aujourd'hui les fondations, pour ne pas dire les fondamentaux de l'entité sioniste, sont aujourd'hui déstabilisées et risqueraient de s'effondrer à tout moment. Merci. Et c'est cela en réalité qu'on essaie d'endiguer par différentes manœuvres politiques, politiciennes, pour donner une fausse impression à la population de l'entité sioniste, comme quoi vous êtes protégé, au revoir, auquel ce soutien, au contraire, a besoin de l'entité sioniste et pas le
contraire. Merci d'avoir été avec moi pour cette émission. Alsace, mes vifs remerciements vont également à vous, Madame Aïssa Armidani, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée et je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt. We'll be right back.
l'idéologie et la pratique des courants takfiristes. La Russie affirme disposer de preuves montrant que les services de renseignement américains utilisent des cellules terroristes dormantes en Syrie pour prendre des mesures contre l'armée syrienne et ses alliés. Les forces russes en Syrie disposent d'informations indiquant que les services de renseignement américains ont un plan bien planifié pour utiliser les cellules dormantes des groupes extrémistes en Syrie dans la mise en œuvre des mesures contre l'armée syrienne, les troupes russes et les conseillers iraniens présents dans le pays, a fait savoir le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Cité par l'agence de presse syrienne Sana, il a précisé que les forces russes stationnées en Syrie ont mis à leur ordre du jour des mesures appropriées pour faire face à de tels incidents, soulignant que selon les diverses estimations, entre 30 000 et 40 000 terroristes étrangers de plus de 100 pays du monde ont atteint l'Irak et la Syrie depuis 2011. Le haut responsable russe a décrit les combattants terroristes étrangers comme le défi transfrontalier le plus dangereux pour la communauté internationale et a affirmé que ce phénomène exigeait des mesures réciproques au niveau national et international, car le groupe terroriste Daesh et d'autres groupes dans la région constituent une menace dangereuse pour la sécurité mondiale. Selon lui, le groupe terroriste Daesh compte presque entièrement sur le commerce de la drogue pour financer ses attaques tout en envisageant d'étendre son influence dans les pays d'Asie centrale et en Russie. Ses propos font écho aux informations révélées par le site web russe Eurasianet qui vient de signaler la présence d'au moins 455 ressortissants kirghizes actuellement détenus dans les prisons en Irak et en Syrie. Eurasianet indique que 79 enfants kirghizes issus de parents membres du groupe terroriste Daesh ont été rapatriés depuis mars dernier, affirmant qu'après 3 ans de négociations continues, le pays a pu rapatrier 55 femmes détenues par Daesh dans les prisons irakiennes. Toutefois, 400 autres ressortissants kirghizes, dont la plupart des femmes et des enfants, restent dans le camp d'Al-Haoul. Selon le site web, des estimations indiquent que plusieurs milliers de ressortissants d'Asie centrale ont rejoint le groupe terroriste Daesh et d'autres groupes terroristes au cours de la première décennie du XXIe siècle. À présent, les forces démocratiques syriennes, soutenues par les États-Unis, maintiennent le contrôle du camp d'Al-Haoul, où des dizaines de milliers de membres de famille des terroristes de Daesh sont détenus, mais le gouvernement kirghize n'est pas en mesure de leur fournir les moyens de rapatriement en raison de difficultés financières. Un expert des questions stratégiques de la région a déclaré à l'agence iranienne Tasnim News que les États-Unis cherchaient à déstabiliser la Syrie après leur défaite stratégique dans ce pays. Le service de renseignement extérieur de la Russie a déclaré mardi dans un rapport que les États-Unis prévoyaient d'inciter les cellules dormantes de terroristes dans les villes de Latakia et de Damas, qui sont sous le commandement de Washington, à attaquer les forces iraniennes, syriennes et russes qui combattent avec les groupes terroristes et takfiristes en Syrie. À cet égard, l'agence de presse Tasnim a réalisé un entretien avec Amin Houtait, un éminent analyste libanais et expert des affaires stratégiques dans la région. Amin Houtait a déclaré que les remarques de la Russie s'inscrivaient dans le cadre du conflit médiatique et politique entre Moscou et l'Occident au sujet de l'Ukraine et a expliqué que les services de renseignement russes ont pris connaissance du nouveau plan américain visant à perturber la situation sécuritaire en Syrie, dans les zones contrôlées par le gouvernement de Damas, et exprimé leur avertissement à cet égard. Faisant allusion aux événements qui ont précédé l'insurrection de Daesh et l'évasion de la prison d'Al-Sina à Hasakeh, en Syrie, il a souligné la validité des avertissements russes et a déclaré que les États-Unis avaient lancé leur deuxième plan visant à utiliser Daesh pour perturber la sécurité de la Syrie. Les États-Unis n'ont pas été en mesure de réaliser ce qu'ils voulaient en Syrie et n'ont pas réussi à atteindre leur objectif stratégique et principal de dominer la Syrie. Voilà pourquoi ils tentent aujourd'hui de mettre en œuvre notre stratégie qui consiste à empêcher la Syrie de retrouver une vie normale. À cette fin, les États-Unis font pression sur la Syrie et ses alliés pour compenser leur défaite stratégique contre la Syrie et l'axe de la résistance, a précisé l'expert libanais. L'axe Iran-Syrie, soutenu par la Russie, poursuit sa confrontation sur le terrain et travaille selon un programme hiérarchisé. Le gouvernement syrien travaille également en vertu d'une stratégie nationale tridimensionnelle basée sur une action politique intensive, une mobilisation militaire ainsi qu'un travail social sur fond de réconciliation et d'amnistie générale émise par le président syrien Bachar el-Assad. En outre, le plan syrien visant à récupérer tous les territoires occupés et à établir la sécurité et une vie normale est toujours en cours, mais il faudra du temps, de la patience et des efforts pour le mettre en œuvre et réussir, a conclu Amin Houtait. Deux soldats maliens ont été tués tôt dimanche 13 février dans le nord du Mali lors d'une attaque contre leur poste imputée à des terroristes radicaux, a annoncé l'armée sur des réseaux sociaux. Le poste de Niafunke a été attaqué vers 2h du matin par un groupe armé terroriste, a indiqué l'armée, employant un terme désignant communément les groupes armés extrémistes. Le bilan est de 2 morts côté femmes, forces armées maliennes, et 5 morts côté assaillants, a-t-elle ajouté. Ce sont les premières pertes humaines annoncées par l'armée malienne dans ses rangs depuis quelque temps déjà. L'agence France Presse n'a pas retrouvé sur le compte Facebook de l'armée l'évocation de telles pertes depuis un communiqué du 5 janvier rapportant 6 décès survenus dans les rangs de l'armée lors d'affrontements en novembre et en décembre. Entre-temps, l'armée malienne a revendiqué la mort de dizaines de terroristes radicaux et la destruction de plusieurs de leurs bases depuis le déclenchement en décembre, une opération appelée Kelletigui. Ces communiqués décrivent les terroristes radicaux de plus en plus en débandade, cherchant l'évitement avec les forces maliennes. Les terroristes radicaux ont causé depuis 2012 la mort de centaines de membres de forces de sécurité nationale au Mali, et chez ses voisins burkinabés et nigériens auxquels ils ont étendu leurs agissements.